VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. La RDC reprise pendant le week-end des travaux du dialogue national en plénière. Les discussions ont porté notamment sur le calendrier électoral. Approuve les propositions du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nanga.
Nous avons présenté les schémas critiques en tenant compte des contraintes logistiques, financières et légales. On est arrivé, avec l'appui de la communauté internationale, à dégager des indications. Et cette indication se résume précisément que nous clôturons l'opération de révision du fichier électoral le 31 juillet 2017 et nous allons convoquer l'électorat pour les 3 scrutins en novembre 2017.
Mais la proposition du président de la CENI a été rejetée par l'opposition. Vital Kamerhe, représentant l'opposition au dialogue national.
Au niveau de l'opposition, nous pouvons dire la première convergence avec la CENI, c'est que nous acceptons que, finalement, qu'on puisse convoquer l'électorat en 2017. Mais nous allons réajuster au niveau du mois, puisque nous parlons du 30 septembre 2017. La CENI parle de novembre 2017. Nous voulons une période la plus courte possible, mais techniquement réaliste et réalisable. Les autres discussions vont se poursuivre maintenant au niveau des négociations entre composantes.
Vital Kamerhe, représentant de l'opposition au dialogue national en RDC. Le Gabon a un nouveau gouvernement quelques jours après la nomination d'Emmanuel Izozen Gondé au poste de Premier ministre. Ce cabinet formé hier est composé de 40 membres, de 11 femmes. Les détails avec notre correspondant à Libreville, Jean-Revis Dabani.
Les piliers que sont le pétrole, la communication gardent leur poste, mais avec des pouvoirs élargis. Alain-Claude Billy-Binsé, homme de confiance du Sérail, garde son poste mais devient ministre d'État. Les portefeuilles de la Défense nationale, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Justice changent de titulaire. Jusqu'ici, secrétaire général de la Présidence de la République, Étienne Massard devient ministre de la Défense nationale. Pacom Mubele Boubeya quitte l'Intérieur pour les Affaires étrangères. À l'administration du territoire et l'intérieur, on retrouve Lambert Mata, une maison qu'il connaît bien. Il a été pendant près de 25 ans secrétaire général du ministère de l'Intérieur. L'avocat Francis Nkeya, allié du pouvoir, devient ministre d'État en charge des relations avec les institutions constitutionnelles. Il est aussi en charge du dialogue politique. C'est d'abord un gouvernement pour remercier les alliés. Paul Biyogemba, jusqu'ici ministre de la Santé, l'ancien journaliste et ancien président du Conseil national de la communication, Guy Bertrand Mapangu, sont récompensés pour leur soutien à la réélection du candidat Ali Bongo. Dans les rangs du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, l'ancien ministre délégué à l'intérieur, Guy Meksan Mamiaka, Françoise Asengon Obam, sont appelés en renfort pour aider à la mise en œuvre du programme politique du candidat Bongo. L'ancien candidat à la présidentielle d'août dernier, Bruno Ben Moubamba, hérite de la vice-primature en charge du logement. Libreville, Jean-Revis Dabani, VOA Afrique.
Burkina Faso, environ 3000 personnes, dont des jeunes de 10 pays africains, se sont retrouvées ce week-end dans le pays pour une journée d'hommage au président défunt Thomas Sankara, arrivé au pouvoir à Ouagadougou par un coup d'État et assassiné lors d'un autre putsch qui porte son compagnon d'armes Blaise Compaoré à la tête du pays pour 27 ans. Après un symposium, la manifestation s'est poursuivie avec une marche dans Ouagadougou et un grand concert place de la Révolution, avec de nombreuses vedettes africaines, dont l'ivoirien Tikenja Fakoli, la malienne Nawa Doumbia et le burkinabé Smokey. Les organisateurs ont profité du symposium pour lancer une fondation visant à réunir 5 milliards de francs CFA, soit environ 7,5 millions d'euros pour la construction d'un mémorial sur les lieux de la mort de Thomas Sankara. Burkina Faso toujours, le procureur général près la Haute Cour de justice a affirmé lors d'un point de presse pendant le week-end qu'en l'état actuel des choses, l'ancien président Blaise Compaoré ne peut pas être jugé pour attentat à la Constitution et aux trahisons. Plus de détails sur ce dossier dans le reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ronogo.
C'est publiquement face à la presse que le procureur général près la Haute Cour de justice, Armand Ouédraogo, a lancé ce pavé dans la mare.
Blaise Compaoré a été mis en accusation pour haute trahison et attentat à la Constitution. Mais si vous prenez la haute trahison, l'attentat à la Constitution, ce ne sont pas des infractions dans le droit positif. On a affirmé haute trahison, attentat, on doit juger le chef de l'État pour ça. Mais si vous ne dites pas d'abord en quoi consiste la haute trahison ou l'attentat, vous voulez que le juge puisse traiter le dossier comment?
Comment les Burkinabés ont reçu cette déclaration?
Ça me décourage. S'il ne peut pas être jugé, c'est peut-être question de temps. Si toutes les conditions sont réunies, il va être jugé. Ça, c'est clair. Il ne peut pas aller rester injugeable. Pas possible. Après tous les crimes, Blaise serait jugé. C'est qui est sûr, Blaise serait jugé. Toutes toutes les formes seront réunies pour qu'il soit jugé, ça c'est clair.
Je ne suis pas vraiment satisfait de cette déclaration parce qu'on voulait que justice soit rendue à ceux qui se sont battus pour notre insurrection. Maintenant, quand ils disent que le président Blaise Compaoré ne peut pas être jugé, nous sommes vraiment très découragés.
Alors moi, en tant que citoyen, je suis vraiment très déçu de l'avis donné par le procureur. Mais je pense que la loi, elle est faite par les hommes. Il y a une possibilité pour vraiment arriver à mettre la main sur Blaise et le juger en toute transparence et en toute équité. Parce qu'il revient au Burkinabé d'avoir la vérité et de connaître réellement ce qui s'est passé.
Pour Idrissa Nogo, coordonnateur du mouvement « Plus rien ne sera comme avant », il faut plutôt pointer les doigts accusateurs sur le CNT, le Parlement de la Transition.
Les organes de la transition se sont vantés d'avoir voté massivement un certain nombre de lois. Ils ont même permis de comparer cette prouesse-là à la législature du temps de Blaise Compaoré, qu'ils auraient donc dépassé en matière donc de vote de loi vu sous l'angle de la quantité. Ce n'est pas la quantité qu'il faut mettre en exergue, c'est plutôt la qualité des lois votées, l'effet qui devait être donc suivre pour la mise en exécution de ces lois-là. Ils se sont contentés de prendre des lois. Voilà qu'effectivement, un certain nombre donc de dispositions qui ne leur permettent pas forcément donc de mettre en accusation un certain nombre de personnalités.
Le procureur général, après la Haute Cour de justice, se donne un délai de 3 mois pour juger les ministres, dont Blaise Compaoré, mais cette fois-ci en tant que ministre de la Défense. Zoumana Ounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Conflit en Libye, les forces du gouvernement libyen d'union nationale affirment ce lundi avoir tué 90 djihadistes dimanche au cours de l'offensive gouvernementale pour reprendre Sirte, le bastion du groupe État islamique dans le pays. Lancée le 12 mai, l'opération de reconquête de Sirte progresse par à-coups, l'armée lançant régulièrement de nouvelles attaques entrecoupées de périodes de calme. Conflit en Syrie, les forces du régime de Bachar al-Assad poursuivent leur progression dans les quartiers rebelles d'Alep, la grande métropole du nord du pays. Selon un haut responsable de l'ONU, la situation sur le terrain est devenue un véritable enfer sur Terre. Jean-Roger Bion.
Pour citer le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, les quelques 250 000 habitants de la partie assiégée d'Alep sont confrontés à un niveau de sauvagerie qu'aucun humain ne devrait avoir à supporter. Il a appelé dimanche à une action urgente pour y mettre fin. Le temps presse, arrêtez le carnage maintenant, a imploré M. O'Brien. Face à cette tragédie humaine, la Commission européenne a annoncé une initiative humanitaire d'urgence pour permettre aux organisations humanitaires d'aider la population et notamment assurer les évacuations médicales des blessés et des malades d'Alep Est. Mais 10 jours après le lancement par le régime et son allié russe d'une vaste offensive sur Alep Est, l'étau se resserre autour de cette partie de la ville contrôlée par les rebelles.
Présidentielle américaine 2016 maintenant, les équipes de campagne du candidat républicain Donald Trump et de la démocrate Hillary Clinton croisent le fer au sujet d'une nouvelle controverse. Des extraits de ce qui serait l'affiche d'impôt 1995 de Donald Trump publié par le New York Times. Envoyé anonymement au principal quotidien new-yorkais, ces documents montrent que l'homme d'affaires Donald Trump aurait déclaré des pertes de 916 millions de dollars en 1995, un montant qu'il pourrait avoir déduit de ses impôts fédéraux sur près de 2 décennies et ne pas ainsi payer d'impôt fédéral sur toutes ces années. Mais est-ce que Donald Trump a agi de la sorte? Le journal ne le dit pas spécifiquement, Timothée Donangmaï.
Le New York Times explique que les documents fiscaux de Trump exposent les bénéfices fiscaux extraordinaires qu'il a tirés dans les années 1990 à travers la mauvaise gestion de 3 casinos d'Atlantic City, son aventure malheureuse dans le transport aérien et son acquisition inopportune du Plaza Hotel de Manhattan. Pour Hillary Clinton et les démocrates, c'est une aubaine. Eux qui réclament depuis des semaines la publication des fiches d'impôts de Donald Trump n'en demandaient pas mieux. On se rappelle qu'au premier débat, la candidate démocrate avait laissé entendre que son adversaire républicain ne veut pas publier sa feuille d'impôt de peur que les Américains constatent qu'il prend avantage de la loi pour ne pas payer d'impôts fédéraux. Donald Trump a réagi sur Twitter dimanche, assurant « Je connais nos complexes lois fiscales mieux que quiconque s'étant porté candidat à la présidence et moi seul peux les régler ». Avec le premier débat entre l'écolistier, le démocrate Tim Kaine et le républicain Mike Pence prévu mardi 4 octobre, et le deuxième face-à-face Donald Trump-Hillary Clinton le dimanche 9 octobre, la question des impôts de Trump continuera sans doute d'être évoquée par les démocrates.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.